France Culture.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une émission programmée et préparée aujourd'hui par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et Noé Mignard et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Comme tous les lundis, nous nous interrogeons sur les déterminants du comportement des agents qui façonnent l'économie. Et aujourd'hui, c'est aux médecins libéraux que nous nous intéressons. Ces derniers sont en effet au cœur d'une proposition de loi passée en première lecture devant l'Assemblée nationale le 2 avril et qui sera réexaminée demain. Son initiateur, le député PS Guillaume Garot, entend s'attaquer à un sujet majeur, la régulation de l'installation des médecins.
La régulation de l'installation des médecins, c'est une autorisation préalable à l'installation ou à l'exercice qui serait délivrée par les ARS. Elle serait automatique, évidemment, lorsque le médecin viendrait s'installer ou exercer dans une zone sous-dotée. Et malheureusement, nous n'en manquons pas. Mais elle serait subordonnée dans les zones suffisamment dotées à l'arrêt d'activité d'un médecin, avec le remplacement de 1 pour 1. Ce qui veut dire que la liberté d'installation, bien sûr, elle prévaut, que le principe n'est pas remis en cause. Il est simplement aménagé, encadré, au nom de l'intérêt général.
Faut arrêter de nous demander plus. À un moment, après 10 ans, bac plus 10, celui qui finit le plus tôt d'entre nous, il finit à 30 ans. Il a envie de vivre sa vie en paix avec sa famille.
On fait ça pour aider les gens, mais c'est pas pour autant qu'il faut encore tirer plus sur la corde. C'est, nous, on fait ça parce que c'est soit par passion, soit parce qu'on a un attrait pour ça, mais ça justifie pas du tout de nous forcer à faire ces choses-là. Et ça risque bien sûr de tomber sur les patients parce que des médecins forcés, c'est des patients mal soignés.
On est médecins libéraux, on est là parce qu'on a envie de choisir notre façon de travailler pour optimiser au maximum les choses selon notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Chaque médecin libéral a un exercice différent. Le point positif de la médecine libérale, c'est justement qu'on peut faire comme on aime.
C'est un sujet brûlant qui, depuis des décennies, ne cesse de revenir dans l'espace public et le débat public. 87% du territoire français serait en situation de désert médical. Plus d'un tiers des patients renoncent à des soins faute de rendez-vous. Et 6,7 millions d'assurés n'ont tout simplement pas de médecin traitant. Derrière les chiffres, c'est le droit à l'accès aux soins garanti par la Constitution et promis par le contrat social noué autour de la notion de cotisation qui est menacée. Hier, 1513 élus locaux ont signé une tribune de soutien à cette proposition de loi, par ailleurs soutenue par un groupe transpartisan de plus de 250 députés et qui propose notamment de conditionner l'implantation des médecins libéraux dans les zones suffisamment dotées à autorisation. Une proposition qui pourtant est loin de faire consensus chez les médecins libéraux, d'abord, qui le 29 avril dernier sont sortis dans la rue pour manifester leur opposition, mais aussi au sein du gouvernement qui a mis sur la table le 25 avril dernier une mission de solidarité obligatoire, soit l'idée d'inciter les généralistes ou les spécialistes situés dans des territoires dit bien doté à exercer un ou deux jours de temps de consultation par mois dans les zones dites en difficulté. Alors inciter financièrement ou contraindre par la loi, c'est tout l'enjeu d'une politique publique qui peine à émerger et à se saisir du problème. Un choix qui interroge celui des médecins libéraux, mais aussi les fondements même d'un marché qui ne saurait se passer de régulation pour fonctionner efficacement, c'est-à-dire en permettant à tous d'avoir accès aux soins. Alors la liberté revendiquée des uns est-elle compatible avec le droit de tous? La régulation du marché du soin est-elle arrivée à un point de rupture? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux économistes spécialistes de longue date de la question de ce marché si spécifique et des inégalités territoriales qui le caractérisent. Thomas Barnet, bonjour.
Bonjour Aliette Devine, merci.
Vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Est Créteil, l'UPEC, au sein du laboratoire Érudite pour équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles en lien avec la théorie économique. Vous êtes également le fondateur et le directeur du Master 2 Économie de la Santé, toujours au sein de l'UPEC. Également avec nous, Julien Mousquès, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique dans le département sciences humaines et sociales, directeur de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, et membre du conseil d'administration du Collège des économistes de la santé. Et je précise que vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Bordeaux, et c'est Antoine Muel qui assure ce duplex. Un grand merci à lui. Alors Thomas Barnet, avant d'entrer dans les détails de cette proposition de loi et surtout ce à quoi elle entend remédier, il faut comprendre dans quelle mesure on parle là d'un sujet où l'expertise économique a un sens et une légitimité aussi, c'est important de le préciser. Que cherche à produire cette fameuse expertise économique dans le domaine de la santé? En somme, quel est le but des économistes qui se penchent sur le marché du soin?
Alors, si vous me permettez, tout d'abord, merci à nouveau de m'avoir invité. Je vais définir en deux, trois mots l'économie de la santé. C'est une discipline qui est relativement émergente, qui prend racine dans les années 50 aux États-Unis. Et deux problématiques théoriques apparaissent. La santé comme composante du capital humain, qui a donné lieu à des théories de la croissance endogène. On va supposer que la santé est un facteur de production et peut-être donc peut produire de la richesse. Et le deuxième pan, c'est la théorie de l'assurance qui va être convoquée dans le contexte spécifique du marché des soins. Et c'est cet aspect-là qui va particulièrement nous intéresser. Et donc dans ces travaux, notamment le travail d'un fameux économiste qui a eu le prix Nobel en 72, qui est Kenneth Arrow, dans son papier fondateur, il va nous expliquer assez clairement, et c'est encore d'actualité, que cette discipline, l'économie de la santé, nécessite une régulation du secteur pour deux raisons, donc une intervention publique pour améliorer l'efficience du système de santé parce que ce marché est caractérisé par des défaillances importantes, mais également pour favoriser une allocation plus juste des ressources.
Alors on va revenir sur la nature de ces défaillances et puis au nom de quoi cette justice aussi doit être menée et menée de fait. Julien Mousquès, pour être bien au clair aussi sur la façon dont vous allez vous saisir de ce sujet et puis l'angle que nous avons adopté, je reprends cette question, mais à quoi sert un économiste de la santé? Est-ce que cela revient à juger ce qui a été mis en place et si oui, selon quels critères?
Oui, alors effectivement, dans complément de ce qui a dit mon collègue Thomas Mardet, si on s'intéresse spécifiquement au marché des soins et services de santé, et donc à la relation entre ces médecins et ici ces médecins libéraux et soit les financeurs, les patients, il y a un contexte très particulier de la relation, avec des relations d'agence très fortes, des asymétries, des incertitudes, qui produisent des comportements qui vont pas forcément dans le sens de la meilleure allocation des ressources, et ici de la meilleure allocation de la disponibilité des médecins en proximité des patients. Et donc, il y a besoin de réfléchir à la fois aux déterminants, aux comportements, mais aussi aux outils de régulation et aux politiques publiques qui permettent d'atténuer les conséquences qui peuvent être délétères pour les citoyens et la société.
Alors là, on en arrive à un point crucial, Thomas Barnet, c'est celui de cette fameuse défaillance. Les économistes qui se penchent sur le marché du soin sont confrontés à un phénomène qui met en déroute toutes les théories classiques, celles auxquelles les économistes aiment bien croire, parce que cela arrange aussi la modélisation et parce que cela fait partie d'un modèle théorique. La main invisible censée garantir l'adéquation entre offre et demande ne fait tout simplement pas son travail. Preuve en est, 6 millions de Français sont sans médecin traitant, je le disais. Il y a donc de la demande dans l'absolu. Or, 57 départements sur 100 ne sont dotés que d'un généraliste pour 1000 à 2000 patients. Ces départements étaient d'ailleurs 48 il y a 5 ans. C'est bien que l'offre ne suit pas. On voit là l'inadéquation, on peut parler, Thomas Barnet, d'un marché structurellement déséquilibré?
Oui, structurellement déséquilibré parce qu'effectivement, spontanément, les médecins ne vont pas s'installer dans les zones sous-denses malgré la perspective d'un revenu supérieur. Donc on reviendra sur ces incitations financières et les aspirations des médecins sans doute. Et donc potentiellement, les défaillances se traduisent par des dépenses de santé qui vont être trop importantes dans les zones surdenses avec trop de médecins. Et dans les zones sous-denses, donc ce qu'on appelle vulgairement les déserts médicaux, on va avoir des comportements de médecins qui vont se retrouver dans des conditions de travail extrêmement pénibles, avec potentiellement une altération de la qualité des soins. Donc on est vraiment en rupture du contrat social, selon lequel chaque citoyen devrait contribuer selon les moyens et recevoir selon ses besoins. C'est cette deuxième partie du contrat social qui nous intéresse particulièrement.
Julien Mousquès, on parle de défaillance, on parle immédiatement dans cette inadéquation, pardonnez-moi, de l'offre et de la demande du comportement des médecins libéraux. On disait qu'ils ne répondent pas nécessairement à un certain nombre d'incitations ou de contraintes, on va le voir. Est-ce qu'il faut pour autant dire que ce sont ces agents-là, ces acteurs-là que sont les médecins libéraux qui sont, on peut le dire, les agents perturbateurs finalement de ce marché de l'offre et de la demande? Est-ce que ça se résume à cela?
Alors, il est vrai qu'il est important d'apporter la précision que la façon dont le marché est structuré fait qu'il y a un pouvoir discrétionnaire qui reste dans la main des professionnels et des médecins libéraux en l'occurrence, qui leur donne cette capacité d'aller localiser leur activité, y compris dans des zones plus concurrentielles, en fonction de leurs choix et de leurs préférences. Cela est exacerbé dans les systèmes et dans les pays dans lesquels ces médecins sont rémunérés à l'activité, puisqu'il y a un lien direct entre l'activité et les revenus. Mais il est vrai aussi qu'il y a des éléments de régulation au moment de la formation médicale, notamment, qui vont conditionner le nombre de médecins qui sont formés et qui donc, en supplément d'autres choix de spécialisation, de choix de secteur d'activité entre l'exercice en ville ou l'exercice à l'hôpital, de choix de type de mode d'exercice et évidemment des choix de localisation, vont produire des effets sur les équilibres et les déséquilibres entre l'offre et la demande, et surtout sur leur intensité et leur distribution sur le territoire.
Et puis Julien Mousquès, il faut insister sur cette contradiction qui est au cœur de ce marché du soin et qu'on a commencé à effleurer. On parle là d'une forme de rationalité, finalement, vis-à-vis de ces médecins libéraux qui choisissent, vous l'avez dit, Julien Mousquès, en fonction de leurs choix, de leurs préférences, et puis d'une rationalité très économique aussi, à partir du moment où il y a la question de la rentabilité de leur cabinet qui vient se mettre sur la table. Donc ça, c'est une sorte de liberté qui est largement défendue d'ailleurs par ces médecins-là, mais qui se retrouve confronté à une autre donne qui est structurante pour ce marché, c'est celle de la régulation. Or, on le disait, cette régulation, elle n'est pas imposée de nulle part. Il y a cette idée que c'est inscrit aussi dans le droit, et même le droit constitutionnel. Le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que la nation garantit à tous la protection de la santé. On pourrait aussi citer la loi Kouchner de 2002 qui introduit dans le Code de la santé publique un article selon lequel le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Julien Mousquès, est-ce qu'on a là aussi une forme de contradiction entre liberté d'un côté et droit constitutionnel et donc régulation de l'autre ? Est-ce que c'est ça on va dire, la contradiction inhérente à ce marché ?
Oui, effectivement, à la fois ces acteurs ont en particulier, évidemment, et ça a été rappelé dans les sons que vous avez diffusés auparavant, ils sont à la fois portés par des questions d'altruisme, d'attirance pour certaines particularités et spécificités du métier, et notamment celle de rendre des services, et des services pour des patients qui exposent leurs problèmes. Mais ils l'ont dit aussi, ils sont aussi tirés par des préférences relativement à leur exercice professionnel, relativement à leur vie personnelle familiale, et d'autres considérations, et cela va jouer sur leurs choix, et sur les grands choix qu'ils peuvent faire au cours de leur carrière, au cours de leur formation initiale. Il est vrai que l'ensemble des systèmes et des systèmes de santé avancés sont confrontés à ces particularités, mais les outils de régulation sont mobilisés de façon différente. Et à grands traits, on peut dire que la France a globalement, sur le marché du secteur libéral, laisser aux acteurs et aux institutions représentant ces acteurs une part importante de responsabilité en termes d'autorégulation.
Ce qui est d'autant plus étonnant, Thomas Barnet, qu'on le disait, on peut aller plus loin encore que cette promesse constitutionnelle, cette idée de la loi qui garantit aussi une forme de régulation. Vous l'avez dit, c'est la promesse liée au contrat social, au fait même de cotiser, finalement, cette idée que chaque citoyen cotise en fonction de ses moyens et espère plus tard, en cas de problème de santé ou en cas de vieillesse, tout simplement, ce qui est un horizon un peu plus sûr déjà, espère avoir un retour aussi en fonction de ses besoins. C'est ce contrat-là qui aussi est une forme de rationalité économique qui fonde aussi le marché du soin.
Oui, je pense que l'une des tensions extrêmement fortes, et elle a été traduite très bien dans les mots qu'on a entendus, c'est que se font face l'intérêt de santé publique, l'intérêt général et des intérêts qui renvoient à des logiques individuelles, que ce soit du côté du patient lorsqu'il avait la liberté de choisir son médecin ou du côté du médecin lorsqu'il avait la liberté de prescrire, la liberté de s'installer, etc. Et du coup, l'intérêt général prévaut de plus en plus pour des questions de santé publique, de respect du contrat social, mais également pour des considérations économiques sur lesquelles on reviendra sans doute. Et donc, il est nécessaire, et c'est compliqué cette tension, parce qu'on entend dans ce que vous avez diffusé que il est tout à fait normal que les aspirations individuelles se traduisent dans l'installation des médecins, mais la santé, en tout cas une partie de la santé, est un bien public, et on l'a vu pendant la Covid-19. Donc c'est toute cette contradiction d'une médecine libérale, naturellement, mais qui produit un bien élémentaire, essentiel, Et par ailleurs, qui suivent une formation qui renvoie à la solidarité nationale et par le biais des cotisations sociales et des impôts qui sont payés pour les former.
Ce qui me fait poser une autre question, Julien Mousquès, dans quelle mesure s'agit-il là, parce que là on parle de contrat social, on parle de notre constitution aussi, dans quelle mesure s'agit-il là d'une spécificité française? Alors on l'entend, le marché du soin, et vous le disiez, il y est aussi à tout un tas d'asymétries, notamment d'asymétries de l'information, il est défaillant. À cela on rajoute aussi cette idée de contrat social français. Aujourd'hui, la France se situe au 31e rang des pays de l'OCDE en termes de dotation en médecins et nous faisons partie des pays qui ont connu au cours des 10 dernières années une des augmentations les plus faibles de ses effectifs médicaux. Julien Mousquès, c'est ce qu'il y a une spécificité française dans cette inadéquation de l'offre et de la demande sur le marché du soin?
Oui, c'est très juste. Alors, d'une part, la raréfaction que l'on a vécue depuis le début des années 2010 est particulièrement intense relativement à celle connue dans d'autres pays à système de santé avancé et pays développés. La France est particulière en ce que la réaction a pu être jugée comme tardive. Il y a une gestion très sinusoïdale des effectifs d'étudiants de médecins rentrant en deuxième année de médecine avec le fameux numerus clausus et désormais numerus apertus qui produisent, après cette longue période de formation de 8 à 10 ans, des déséquilibres en fonction des époques très très différents entre l'offre et la demande. Mais la France, elle a été aussi particulière en ce qu'elle a mobiliser certains outils, parfois avec un peu trop d'espoir et d'espérance, comme les incitations financières, à mobiliser d'autres outils en cohérence avec d'autres outils mobilisés dans d'autres pays relativement aux conditions d'exercice et notamment à l'accompagnement des exercices regroupés et regroupés pluriprofessionnels hein, qui sont de plus en plus attractifs pour les étudiants sortant des études médicales et les actifs, mais également à laisser de côté d'autres types de dispositions et de dispositifs de politique publique qui peuvent avoir des effets à la fois à court et moyen terme, on y reviendra sûrement.
Thomas Barnet, on arrive là à un point extrêmement intéressant, c'est qu'au final, on comprend qu'il y a l'offre d'un côté, la demande de l'autre, on pourrait y revenir aussi, celui de du vieillissement de la population, une donnée tout simplement démographique, mais il y a en fait plus globalement le système qui régule tout cela. On pourrait se demander dans quelle mesure les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sont liés à un marché qui a été mal régulé, un système qui a été mal pensé. Là, on en vient à un point crucial de ce débat-là. Est-ce que le problème est celui de la répartition des médecins, qui pose donc celui des enjeux de préférence de ces médecins libéraux, ou est-ce que c'est celui du nombre de médecins disponibles, on va dire? Et là, on en arrive à cette question du numerus clausus mis en place à la toute fin des années 60, en 68 pour la rentrée de 1969. Est-ce que c'est ça le problème? C'est tout simplement qu'on a mal estimé finalement les besoins à venir à la fin des années 60 et qu'on en paye le prix aujourd'hui, qu'il n'y a tout simplement pas assez de médecins en France?
Alors, peut-être une première chose, c'est que la demande de soins est une demande exponentielle et on peut s'en satisfaire quand on regarde le passé des années 50 aux années 80, la montée en charge de la sécurité sociale a permis de solvabiliser une demande de soins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet évidemment à des personnes qui ont des besoins de soins de se faire soigner. Mais évidemment, le vieillissement de la population et également la chronicisation des maladies, qui est aussi une bonne nouvelle, mais ça signifie aussi qu'on reste plus longtemps avec des maladies. Puis de temps en temps, évidemment, on est soigné, c'est une très belle nouvelle. Et puis l'innovation qui est évidemment qui fait beaucoup de promesses, qui est très coûteuse également et qui génère des dépenses. Donc les dépenses de santé augmentent et l'offre de soins, il faut l'analyser non pas uniquement sur le volet quantitatif. Donc il y a trois aspects à mon avis à regarder en détail, c'est regarder évidemment le nombre de médecins sur le territoire, évidemment, leur répartition sur les territoires. Et puis un élément central qui est vraiment au cœur des débats, c'est le temps médical. Voilà, ça c'est très important de regarder également le temps médical qu'on peut effectivement générer. On sait qu'il y a des contraintes administratives qui reposent de plus en plus sur les médecins. Un chiffre simplement sur ce point-là, en moyenne, les médecins travaillent aujourd'hui 54 heures, dont uniquement 44 devant des patients. Donc on a 10 heures de temps administratif. Donc il y a ces trois dimensions pour moi, le volet quantitatif, le volet répartition et également comment préserver le temps médical des médecins.
Thomas Barnet, pour qu'on comprenne bien comment on en est arrivé là aussi très rapidement, pourquoi a été instauré ce numerus clausus alors qu'on pourrait se dire, au vu des trois facteurs que vous venez de citer, enfin les trois dimensions qu'il faut prendre en compte, on pourrait se dire que plus on est de médecins, le mieux c'est. Or, la stratégie a été l'inverse, celle de réguler par la réduction du nombre de diplômés via ce numerus clausus. Comment l'expliquer ?
Alors moi, je pense que la régulation était extrêmement quantitative, comptable, et reposait aussi surtout, sans doute, alors c'est toujours facile a posteriori de l'expliquer, mais on a pensé que la perspective de revenus supérieurs dans les zones sous-denses allait naturellement conduire les médecins à s'installer dans ces zones-là.
À se répartir.
À se répartir, voilà. Et on a ignoré les aspirations des médecins, ce qui va justifier de s'installer dans tel ou tel secteur. Et du coup, on a pêché par naïveté et par-dessus le marché. C'est vrai que, pour reprendre le terme de Julien, de sinusoïdal, le numerus clausus qui a été très généreux dans les années 70, a diminué ensuite, ce qui pose un problème là de court terme extrêmement prégnant. Sur les 5 années qui viennent, on va avoir même une chute de la densité médicale, c'est-à-dire du nombre de médecins pour 1000 habitants, parce que ces médecins qui ont accédé à des politiques généreuses de numerus clausus partent à la retraite.
Donc mécaniquement, on voit les effets que ça peut produire. Effectivement, sur le très court terme, il y a peut-être un mauvais moment à passer.
Il y a un mauvais moment à passer, oui.
On va voir si ça va réellement s'améliorer. Ensuite, c'est intéressant, vous avez dit qu'on avait pêché par naïveté. On pourrait se dire qu'on a pêché aussi par trop forte croyance dans les mécanismes du marché, qui aurait voulu que tout cela s'équilibre un peu de soi-même, selon ce fameux principe de la main invisible. Or, vous l'avez dit, Thomas Barnet, nous n'avons pas pris en compte les préférences des premiers concernés, les médecins. Des médecins qui s'exprimaient en 1970, alors qu'ils étaient tout juste diplômés.
Quand vous êtes en fin d'études, est-ce qu'on vous fait des propositions pour venir vous installer à tel ou tel endroit ?
Absolument pas. C'est une façon très empirique, c'est-à-dire dans la mesure où on fait un remplacement en fin d'études en campagne, tout à fait par hasard, on s'attache au pays, on ne s'y attache pas, ou on a des propositions de la part du médecin ou pas. Ça se passe comme ça, pas autrement, il n'y a aucune structure définie.
Moi je suis pour la médecine de campagne parce que c'est très bien, on participe avec les malades, on connaît tous les malades, c'est véritablement une médecine personnalisée. Et malheureusement, on est assez éloigné pour le confort, on est éloigné des loisirs. Mais je pense que c'est une épreuve humaine qui mérite d'être vécue.
Mais en plus de ça, ça dépend de ce qu'on entend par campagne. Si c'est la vraie campagne en plein massif central ou la campagne autour de Paris, parce que aussi les conditions sont différentes. Par exemple, moi, je serais assez partisan de s'installer à 50 ou 100 km de Paris avec la possibilité de venir passer le week-end à Paris et puis de suivre une vie assez parisienne, tout en ayant les avantages de la campagne.
Partir à la campagne avec une équipe de médecins et installer un centre avec plusieurs médecins, ça peut être intéressant, mais être complètement seul, je crois que c'est ça le gros problème surtout. Et maintenant, il y a des équipes qui se forment, mais il n'y en a pas beaucoup.
Une archive de 1970, mais ces témoignages pourraient aussi dater de 2025, d'aujourd'hui, tant les arguments se ressemblent. Julien Mousquès, depuis quand parle-t-on de ces fameux déserts médicaux et est-ce que ce terme reflète réellement ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires sous-dotés ?
Alors c'est un terme évidemment qui vient de la géographie, qui n'est pas ma discipline, mais c'est un terme effectivement qui reflète et qui cherche à refléter une situation de dépeuplement et en l'occurrence là de dépeuplement médical et de cette force de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les inégalités de répartition, comme ça a été dit auparavant, en vérité, elles sont consubstantielles de cette relation entre l'offre et la demande de soins et services de santé. Elle était là au 19e, elle est là au 20e. C'est l'intensité avec laquelle on doit faire face aujourd'hui qui peut changer en fonction des époques. Et c'est donc les raréfactions qu'on a évoquées auparavant sur la gestion du nombre d'étudiants qui a produit ses conséquences depuis les années 2010. Et effectivement, il est aussi intéressant, même si c'est difficile de se le dire aujourd'hui, de penser au rebond qui viendra après les années 2030, qui va conduire à des hausses d'effectifs et de densité très importantes, comme on les a jamais connues. Tout cela vient de cette gestion, effectivement, par stop and go, qui produit des effets sur longue période assez déstructurants.
Un rebond qui est lié, je le rappelle, au fait qu'on a effectivement abandonné le numerus clausus en 2020 pour, à la rentrée 2021, instaurer un numerus apertus. Et on va voir si cette mesure peut ou pas rétablir une forme de situation plus stable. Thomas Barnet, de la même façon que vous aviez nuancé tout à l'heure la façon dont il fallait prendre en compte ce phénomène à travers trois dimensions, le nombre, la répartition, mais aussi le temps médical qui est dispensé à chaque patient. Et la question des déserts médicaux, elle se pose aussi... en termes quantitatifs, certes, mais pas seulement, aussi en termes qualitatifs. Le problème, c'est celui de l'intensité, on le disait avec Julien Mousquès, mais c'est aussi un enjeu de spécialité qui ne sont plus présentes, tout simplement, sur certains territoires.
Oui, alors, vous me permettrez une remarque sur l'archive, là, qui est évidemment hyper intéressante.
Bien sûr, beaucoup de choses.
alors, Effectivement, il y a des choses très contemporaines quand on voit qu'on a une intervention en disant « j'aimerais travailler plutôt en groupe plutôt que de manière isolée ». Donc ça, c'est assez précurseur. Mais ce qui a beaucoup évolué, c'est la nature des zones sous-denses ou des déserts médicaux. Là, on ne parle que de médecine de campagne. Et maintenant, dans nos cœurs de ville, Paris est un désert médical pour la médecine généraliste, pratiquement. Alors, c'est un peu excessif, mais il y a une diminution. C'est le deuxième département qui a vu la diminution la plus importante du nombre de médecins généralistes sur les 10 dernières années. Et donc, les périphéries... Donc, on est loin d'avoir un désert médical qui oppose de manière un peu schématique les villes et les campagnes. Julien avait beaucoup travaillé d'ailleurs sur une typologie des déserts médicaux. Donc sur les spécialités, on pense d'abord à la médecine générale, en effet. Et puis, il y a des spécialités qui vraiment subissent de plein fouet aussi une sorte de désaffection, la dermatologie, la gynécologie, la psychiatrie ou encore l'ophtalmologie. Un petit chiffre simplement, entre 2010 et 2021, les dermatos, les gynécologues obstétriciens, les rhumatologues ont vu leurs effectifs diminuer de 20%. Donc voilà, pour cibler un petit peu les spécialités qui sont vraiment en grande souffrance.
Et on voit bien que effectivement les médecins généralistes libéraux ne sont pas les seuls concernés. Julien Mousquet, vous souhaitiez réagir sur cette répartition géographique aussi de ces zones sous-denses et aussi en fonction des spécialités de chacun.
Oui, alors pour compléter, effectivement, si on prend la seule médecine générale pour faciliter la compréhension, les gradients sont à la fois nord-sud, l'attrait pour les côtes par rapport à l'intérieur, le rural urbain, les centres par rapport aux périphéries, les zones frontalières par rapport aux zones non frontalières, et etc., etc. Donc en fait, ça type le territoire de façon très variée en fonction des caractéristiques de ces territoires. Il est vrai que vous l'avez rappelé au début, on entend souvent parler de 87% des territoires qui sont mal dotés. Donc on comprend bien derrière cela qu'il y a des types de territoires dans quasiment toutes les grandes catégories auxquelles on peut penser. Pour autant, en fonction des critères d'analyse, on peut quand même considérer que les territoires les plus problématiques aujourd'hui sont principalement des zones rurales. Et secondairement, des périphéries urbaines éloignées des centres-villes qui ont des problématiques beaucoup plus aiguës que les autres territoires. Et sur la question de l'activité, je voulais revenir sur un point. C'est effectivement, il y a cette question du temps de travail et de l'évolution du temps de travail aujourd'hui par rapport aux générations précédentes, bien que ce temps de travail en libéral soit relativement conséquent par rapport aux autres modes d'exercice. Mais c'est aussi une question d'organisation du travail et de travail notamment entre les différents professionnels de santé, notamment entre les médecins et d'autres professionnels comme les paramédicaux. La France a fait des choix particuliers en la matière et ça conditionne la capacité ou pas de suivre un plus grand nombre de patients. Donc il y a là aussi des réserves de gains d'efficience très très importants lorsqu'on réfléchit aux organisations, aux modes d'exercice. Et relativement à l'exercice en groupe, il a été montré en France que celui-ci effectivement avait une capacité à la fois à attirer des professionnels là où ils étaient localisés, mais aussi à générer des gains de productivité importants.
Julien Mousquet, je voudrais faire un dernier point avec vous sur cet état des lieux de la désertification médicale, comme on l'appelle. On a parlé des fameux 87% du territoire national qui serait classé en désert médical. À côté de cela, on a l'Ordre des médecins qui a publié le 29 mars dernier un rapport concernant la permanence des soins ambulatoires, soit la régulation médicale des appels concernant des actes médicaux non programmés. Donc on l'imagine plutôt en situation d'urgence. C'est un service qui est en place en dehors des horaires d'ouverture des cabinets. C'est une mission de service public assuré par des médecins libéraux volontaires. Et là, le grand argument, c'est que la couverture territoriale de ce service-là est de 97%. Et c'est un taux qui est souvent avancé par les syndicats, en particulier la Confédération des syndicats médicaux français. Et effectivement, Julien Mousquet, on pourrait se dire, bon, certes, il y a ce problème-là de zones sous-dotées, de zones très très peu denses en termes de médecins libéraux, mais il y a ce service-là qui assure en dehors des horaires. Et l'argument, c'est de dire pourquoi s'agiter alors qu'il n'y a que 3% finalement qui ne sont pas couverts par ce service de régulation médicale, par cette permanence des soins ambulatoires. Est-ce qu'il faut distinguer ces deux services-là? Comment comprendre cet argument-là, Julien Mousquet?
Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les améliorations qu'on a connues au cours des dernières années sur la capacité à mieux réguler l'accès à cette permanence des soins ne doit pas faire oublier les difficultés d'accès aux soins courants en proximité en journée. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a eu des améliorations sensibles relativement à cette régulation. Mais en parallèle, cette question de l'accès aux soins de proximité et aux soins de premier recours, notamment, s'est profondément dégradée au cours des 15 dernières années, à tel point qu'aujourd'hui, dans les enquêtes européennes sur les expériences des patients, les patients qui renoncent aux soins et qui déclarent renoncer aux soins, pour la moitié d'entre eux, expliquent comme motif des difficultés d'accès par non-disponibilité ou temps d'accès.
Thomas Barnet, je voudrais qu'on fasse un point sociologique aussi très important, parce que c'est vrai qu'on parle des médecins libéraux depuis le début de l'émission, mais il faut bien comprendre pourquoi ce sont eux qui sont au cœur des préoccupations. Le nombre de généralistes pratiquant à la fois en cabinet et à l'hôpital a presque doublé en l'espace de 10 ans, ce qui a limité la baisse de l'ensemble des généralistes exerçant en cabinet à 5% sur ces 10 dernières années. Là, il faut bien comprendre, bien nous aider à comprendre, Thomas Barnet, pourquoi est-ce que la crainte se focalise sur la baisse du nombre de médecins libéraux. Pourquoi, en fait, ce qui ressort finalement des discours, c'est pas tant la baisse des médecins dans l'absolu que cette idée que de plus en plus de médecins vont vouloir être salariés. Pourquoi ça pose problème?
Alors, c'est vrai qu'on voit une aspiration plus forte pour le salariat, donc évidemment pour les médecins qui souhaitent garder un exercice libéral, c'est une crainte pour ceux qui veulent garder ce principe-là. Mais on a de plus en plus de mixité aussi dans l'exercice. Et ce que je voudrais mettre en évidence quand on regarde l'évolution du nombre de médecins, c'est aussi le fait que, alors c'est peut-être quelque chose qu'on verra plus tard, mais quand on regarde le nombre absolu de médecins français, en fait, Le nombre d'actifs réguliers a diminué. Et il a été plus que compensé par une hausse des retraités actifs et des médecins en activité qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger, ainsi que les intermittents. Et donc, on a un système français qui repose sur une médecine libérale importante et puis un système qui est quand même assez hospitalo-centré, avec sans doute des problèmes de coordination entre les deux. L'installation en fait des médecins libéraux est quelque chose de central et qui est très corrélé aussi aux facultés de médecine, parce qu'on voit qu'ils s'installent autour de leur lieu d'exercice, autour de leur lieu de vie. C'est vraiment des facteurs qui ressortent de manière très très forte. Donc les deux sont évidemment extrêmement corrélés, l'hôpital et la ville. Et c'est vrai que de plus en plus, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les services d'urgence sont saturés, parce qu'effectivement il devient compliqué de trouver un médecin. Et comme vous l'avez dit en préambule, et d'ailleurs c'est l'article 2 du projet de loi Garot, on ne veut plus sanctionner, il propose de ne plus sanctionner les patients qui ne trouveraient pas de médecin traitant malgré leur recherche active. Donc c'est assez intéressant. Donc la médecine libérale, elle doit être, je pense, elle doit pas être ciblée, parce qu'on faut aussi qu'on réfléchisse aux autres professionnels de santé, aux infirmières libérales. Et je pense qu'on reviendra sur certains dispositifs qui ont été mis en place en termes de délégation de tâches et qui sont tout à fait intéressants. C'est une manière, on peut pas, sauf à créer une nouvelle faculté de médecine, ce qui est aussi proposé dans le projet de loi, pour, notamment en Corse, pour qu'il y en ait un dans chaque région administrative. Le levier, c'est l'installation des médecins libéraux, voilà, plutôt que les hôpitaux.
Julien Mousquet, est-ce qu'on comprend cette idée de l'importance des médecins libéraux? Elle est aussi liée que ce sont, on va dire, des électrons libres et qui peuvent mailler le territoire de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. On va dire que, effectivement, l'idée d'instaurer soit une faculté, soit un hôpital entier sur un territoire donné. Il y a une étude en novembre 2022 de l'Association nationale des étudiants en médecine qui témoignait d'une perte d'attractivité majeure pour la médecine générale parmi les étudiants qui s'étaient orientés vers celle-ci. Plus d'un sur deux remettent ce choix en question et 7,7 l'abandonnent. Et selon cette même étude, 54% des étudiants qui souhaitaient s'installer en tant que généraliste en France réfléchissent de plus en plus à exercer hors du pays, un chiffre que j'ai trouvé extrêmement élevé en ce qui me concerne. Est-ce que c'est vraiment ça le risque, que les médecins libéraux tout simplement souffrent d'une perte d'attractivité? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui?
Alors, il est vrai que relativement à ces grands équilibres sectoriels en établissement, ou on va appeler ça en soins de ville pour faire simple, et dans les spécialités autres que la médecine générale et la médecine générale, il y a des mouvements de fond, des évolutions structurelles importantes. Il y a celle que vous avez évoquée, c'est-à-dire que on était auparavant, pour faire simple, sur un ratio à peu près 60 en libéral et 40% en établissement. et on était sur un ratio 50-50 sur médecine générale et spécialité, et ça a bougé. Aujourd'hui, on est quasiment à moitié-moitié entre un exercice salarié et un exercice libéral, et 60% pour des spécialisations médicales autres que la médecine générale, et 40% pour la médecine générale. Donc effectivement, ce sont des mouvements de fond. Très probablement aussi, l'exercice salarié s'est assez peu tourné vers les soins de proximité, hormis effectivement ce qui a été évoqué sur l'offre que peut apporter de façon complémentaire ce qu'on appelait les hôpitaux locaux, et puis des structures de soins comme les centres de santé, qui dans la majeure partie d'entre eux proposent une activité salariée pour les professionnels qui travaillent, mais ils sont en nombre et en répartition de façon relativement modeste sur le territoire, même si c'est pas négligeable.
Et puis vous l'avez rappelé.
Donc la dernière grande tendance, et celle que vous avez évoquée, c'est un attrait massif pour l'exercice regroupé, et notamment regroupé pluriprofessionnel, puisque aujourd'hui 80% à peu près des étudiants sortant de leur étude de médecine qui se destinent vers un exercice en soins de ville désirent rejoindre une structure regroupée.
Donc on le voit, la tendance se situe aussi vis-à-vis du libéralisme même de la profession. Vous l'avez rappelé, les médecins ne sont pas les seuls libéraux à exercer dans le secteur médical. C'est également ce que rappelle Alexandre, infirmier libéral à Briouze dans l'Orne, dans le grand reportage de la rédaction de France Culture diffusé en octobre 2021.
Il fut un temps, les anciens médecins, leur territoire, pour être honnête, c'était une chasse gardée. Donc fallait pas que d'autres s'installent sur la concurrence. Ça a pas du tout été travaillé à l'avance, par exemple en prenant des stagiaires, des jeunes internes. Et donc là, on se retrouve le bec dans l'eau. Et puis même maintenant, c'est quand même la seule profession médicale qui s'installe où elle le souhaite. Donc on regarde la carte de France, c'est les grandes villes, les côtes, la mer. Mais aujourd'hui, t'as des offres de soins qui sont complètement désadaptées. C'est-à-dire que les gens ici, maintenant, se disent « mais nous, on forme, on a des CHU, les étudiants sortent de notre CHU, on est comme toutes les régions, on cotise, on a nos impôts, on paye, et finalement, pour avoir des régions en France qui sont plutôt surdotées. » Voilà, ça va loin, ça, ce projet-là. Mais à un moment donné, voilà, les médecins font de la politique, pas les infirmiers. C'est une politique sanitaire, parce que là, t'as bien vu, il y a des urgences sanitaires. Ça va devenir la catastrophe, quoi, à ce rythme-là. On va se retrouver avec des pathologies à domicile, mais qui n'existaient pas auparavant.
La seule profession médicale qui s'installe où elle le souhaite, ce n'est effectivement pas le cas des infirmiers, des pharmaciens, des pharmaciennes non plus. Julien Mousquès, comment on explique cette exception ?
Alors là, ça relève pas trop de l'économie et peut-être plus de la science politique et de la sociologie. Il est vrai que pour les infirmiers, infirmières, pour les masseurs-kinés, pour les sages-femmes, pour les dentistes et les pharmaciens, ce qui fait quand même beaucoup de monde, il y a des dispositifs de régulation de la localisation d'activité. Avec des collègues, on a pu travailler spécifiquement sur deux professions, les infirmiers, infirmières et les masseurs-kinés. Et on a pu montrer qu'effectivement, les dispositifs de régulation à l'installation et d'incitation dans les zones sous-denses, donc le couplage des deux dispositifs, avait permis une convergence des niveaux de dotation pour les jeunes et les nouveaux installés de façon très très importante et très significative. Donc cela relève très probablement des capacités de négociation et du pouvoir de négociation fort de la profession médicale, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est très bousculée dans le débat public et au sein des chambres parlementaires.
Et une profession qui s'exprime aussi, on l'entendait, dans la rue, c'est notamment le cas de la Confédération des syndicats médicaux français, qui estimait que contraindre à titre individuel, alors que ça fonctionne dans 97% du territoire, on en revient à cette donnée, cela va conduire les plus jeunes qui hésitent sur leur futur professionnel à ne pas aller en libéral. On revient aussi à cette menace, on le comprend, la coercition, la contrainte est une solution qui ne passe pas auprès des médecins généralistes libéraux. Alors quelle autre solution envisager, l'incitation financière qui reposerait sur l'idée d'acteurs rationnels du marché, peut-elle faire ses preuves? On en parle juste après Mon Docteur par La Grande Sophie, un titre sorti il y a tout juste 10 ans.
Il m'appelle au secours quand il est malade, je le guéris toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien. Quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine, des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. On peut même voir sa fille en photo. Il a besoin de parler tout ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il a sur le cœur, il peut tout me dire. Si c'est
Mon docteur par la grande Sophie, vous êtes bien sur France Culture. Thomas Barnet, je crois que vous souhaitiez réagir à cet extrait musical.
Oui, ça fait vraiment le lien avec la discussion précédente, c'est la désaffection un peu pour la médecine générale. Il y a vraiment un sujet de santé au travail pour les médecins, et notamment dans les zones sous-denses. On a des études qui montrent que avant la Covid-19, 13% des médecins généralistes vivant en zone sous-dense affirmaient vouloir changer d'activité professionnelle et 18% envisageaient de déménager. Donc on a des travaux qui montrent évidemment les effets délétères de la crise sanitaire, bien sûr sur la population, mais également sur les médecins qui ont été en première ligne. Et donc on sait que les médecins généralistes, par rapport aux spécialistes, ont déclaré davantage de stress lié à la Covid-19 et ont surconsommé aussi des psychotropes par rapport à leurs confrères et ont plus souffert de burn-out. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. La régulation renvoie aussi à notre capacité collective à soutenir les médecins qui sont dans ces zones-là. Un autre élément central, qu'on n'a pas encore traité, en filigrane simplement, c'est de se dire qui sont les médecins aujourd'hui par rapport aux médecins hier. Les médecins aujourd'hui, on a déjà une forte un phénomène de féminisation de la profession.
D'où l'idée aussi de concilier vie personnelle et
voilà, avec des aspirations du coup qui renvoient à la qualité de vie au travail. Des durées de consultation chez les femmes qui sont plus longues, moins d'heures travaillées et des salaires qui sont un petit peu plus faibles, même pas mal plus faibles. J'ai regardé les derniers chiffres là. En moyenne, pour les médecins libéraux, quand on regarde le revenu net mensuel, en moyenne, hein, généralistes et spécialistes, chez les hommes, on touche plus de 12 000 euros mensuels nets. Mm-hmm. Chez les femmes, 7 500 euros nets.
Donc la différence est notable.
Donc ces aspirations nouvelles, avec bien sûr la rémunération joue un rôle, mais finalement les préférences en termes d'équilibre vie professionnelle, vie privée, et à nouveau, hein, on l'a déjà évoqué, le fait qu'on souhaite s'installer près du lieu d'études ou du lieu de vie, ben renvoie à des aspirations beaucoup plus larges que tout un chacun a quand il
Exactement,
veut commencer,
oui.
Démarrer sa vie professionnelle.
Oui, qui n'est pas nécessairement spécifique et que tout un chacun peut de fait comprendre. Alors la liberté des revendiquées et de fait compréhensible des médecins libéraux est-elle incompatible avec la régulation d'un marché du soin auquel chacun doit avoir, selon la loi, accès? Comment le comportement des médecins peut-il être fléché et anticipé? Ce sont les questions que nous nous posons dans cet épisode d'Entendez-vous l'écho, où les médecins libéraux sont notre homo economicus du jour dans un contexte de lutte contre les déserts médicaux depuis des décennies et du reste dès les années 70. La piste de l'incitation financière était évoquée à l'initiative de certains maires, dont celui de vieilles maisons qui faisaient alors face à une pénurie de médecins.
Quels sont les problèmes qui se posent à vous depuis qu'il n'y a plus de médecins à vieilles maisons?
C'est-à-dire souvent j'ai des petits-enfants à la maison et quand j'en ai une qui tombe malade, c'est ennuyé, on est obligé de courir après les docteurs à droite à gauche, enfin, soit en Seine-et-Marne ou dans la Marne.
S'il y avait un accident ici par exemple, comment feriez-vous?
Il faudrait la trouver un docteur. Le plus proche est à 6 km, 7 km. Et c'est ça le gros problème. J'ai déjà eu des problèmes comme ceci. Ils sont assez rares chez nous, mais enfin, ça arrive que ça s'est produit. J'ai eu une ouvrière qui s'est fait couper une phalange et j'ai attendu 1h30 après le docteur.
Il n'y a plus de médecin à vieille maison résidant dans la commune. Je me suis mis en rapport avec le conseil de l'ordre des médecins, tant départemental que national, et quelques candidatures se sont présentées. Pour favoriser au maximum la venue d'un médecin dans la commune, le conseil municipal de vieilles maisons a décidé d'acheter une maison. Cette acquisition représente une lourde charge pour le budget communal, puisque son montant est égal à environ la moitié de notre budget annuel. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, aucune n'a donné de suite.
Le cas de Vielle-Maison n'est pas un cas isolé dans l'Aisne. C'est un problème qui est national et d'ailleurs l'Ordre national des médecins s'occupe de cette question-là, s'y intéresse grandement, car effectivement, actuellement, les jeunes médecins paraissent hésitants à aller s'établir dans les bourgades en remplacement d'un médecin qui est ou décédé ou qui a été s'établir ailleurs.
Julien Mousquet, on retrouve là l'idée d'un marché structurellement inefficace, ou en tout cas déséquilibré, puisque c'était encore une fois une archive de 1970. On voit bien que le problème, la question se pose aussi depuis au moins ces années-là. Une question large mais fondamentale, Julien Mousquet, est-ce que les incitations financières, bon en l'occurrence il s'agit d'un cas anecdotique, celui d'attirer grâce à l'achat d'une maison, mais est-ce que de façon générale les incitations financières sont efficaces en ce qui concerne les médecins libéraux ?
Alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs éléments qui laissent à penser que ce n'est pas le cas. Premier point, et ça se retrouve dans le son que vous venez de diffuser, les déterminants de la localisation d'activité sont très tirés par d'autres considérations que les seules considérations en termes de revenus espérés. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, la question des aménités en termes de services, relativement à des choix personnels ou des choix familiaux, la question des opportunités d'emploi pour le conjoint lorsqu'il y a le conjoint, et c'est le cas à minima de deux tiers des médecins. Et on voit bien que tout cela est relié à d'autres leviers qui sont mobilisables par la politique sanitaire et que ça relève d'autres éléments comme par exemple de l'aménagement du territoire.
Donc des politiques beaucoup
plus gérées. Deuxième élément, c'est que l'ensemble des travaux conduits dans les pays à système de santé avancé, et y compris en France aujourd'hui, moi-même j'ai des travaux avec des collègues sur cette question qui sont en cours de finalisation, qui montrent que les incitations financières pour les médecins généralistes n'ont pas produit d'effets tangibles. Ces incitations, elles sont de deux grandes natures, à l'installation et au maintien, mais il y a aussi des incitations qui n'ont pas été évaluées en tant que telles relativement à des bourses d'études qui peuvent être distribuées au moment de la formation initiale. Et surtout, probablement que ça questionne la capacité des incitations financières, sachant les niveaux de rémunération moyens aujourd'hui des médecins, et selon là où ils se positionnent entre leur offre de travail, leurs préférences en termes d'offre de travail et leurs préférences en termes de revenus, dans un contexte de paiement à l'acte majoritaire. Pour rappel, hein, les médecins généralistes qui sont plutôt dans le bas de l'échelle de la rémunération comme les autres activités cliniques sont à 100 000 euros net de charges avant imposition. Donc très probablement que là, les incitations financières, elles ne permettent pas de compenser les coûts d'opportunité d'aller localiser son activité à un endroit où on ne le souhaite pas.
Donc on le voit, c'est une solution qui n'est pas adaptée, notamment en raison de la structure même de la rémunération des médecins libéraux. Et pourtant, Thomas Barnet, là c'est une contradiction qu'il faut nous expliquer, c'est plutôt cette politique-là qui a été envisagée. Alors peut-être que vous allez me dire, comme Julien Mousquet, qu'il s'agit là plutôt de questions politiques qu'économiques, mais quoique, selon l'assurance maladie, 5000 médecins généralistes sur les 10 000 exerçant en zone sous-dotée ont bénéficié de ces incitations financières ces 5 dernières années. En premier lieu, sous la forme d'une aide à l'installation de 50 000 euros, l'enveloppe globale représente 90 millions d'euros depuis 2017. C'est une somme conséquente. Pourquoi c'est cette approche qui a globalement été privilégiée, alors même que Julien Mousquet est en capacité de nous dire que ce n'est pas forcément le plus efficace?
Oui, c'est assez étonnant. En lisant mes collègues qui font des publications sur le sujet, dont Julien Mousquet et ses co-auteurs, effectivement, on a le sentiment que depuis presque 20 ans, depuis 2007, depuis la loi HPST, j'avais essayé de regarder le nombre, enfin, il y a un nombre de contrats qui se sont empilés pour mettre en place des mesures incitatives de primes, d'aides, d'exonérations fiscales, de garanties de revenus. Alors, on n'a pas pu évaluer de manière rigoureuse toutes ces politiques-là, mais on a des chiffres qui nous sont donnés par la Cour des comptes. En 2015, par exemple, 20 millions d'euros dépensés pour 20 000 bénéficiaires. Donc, évidemment, un coût qui paraît exorbitant pour des inégalités qui continuent de s'accroître. Donc, même après le rebond quantitatif qu'on va attendre lorsque le numerus apertus va faire son effet, si finalement aucune régulation n'est mise en place, on va continuer probablement à abonder les mêmes régions et à délaisser les mêmes régions.
Et on voit, tout est encore question de la prise en compte ou pas des préférences. Et puis on le disait avec Julien Mousquet, de l'environnement, du cadre global de vie et puis du désenclavement de certains territoires. Julien Mousquet, on peut donc évacuer cette idée de l'incitation financière. Mais dans ce cas, que mettre en place? Est-ce que dire il faut revitaliser certains territoires est suffisant? Est-ce que concrètement, on a des solutions, on va dire, sur le terrain, un peu plus concrètes que cela? Est-ce qu'il y a une nouvelle politique qui est en train de se former?
Alors d'abord, pour être très honnête par rapport à la politique qui a été conduite au cours des 20 dernières années, un autre levier a été mobilisé, notamment avec l'espérance de ses effets sur une amélioration de la localisation d'activités, donc de l'accès aux soins par derrière, c'est celle du soutien à l'exercice regroupé, notamment regroupé pluriprofessionnel, qui a été très continu au cours des 20 dernières années, et notamment en direction des maisons de santé et des centres de santé. Et on a pu montrer avec des collègues qu'effectivement, on savait, lorsqu'un territoire voyait l'ouverture de ce type de structure, ils étaient en plus grande capacité à attirer des nouveaux professionnels. Donc la logique de soutenir les conditions de travail, comme ça a été évoqué par Thomas Barnet tout à l'heure, pour à la fois mieux maîtriser la demande, mieux travailler ensemble au sein d'une même profession, mais aussi mieux travailler avec d'autres, ça permet à la fois de satisfaire des préférences professionnelles, mais aussi de satisfaire les besoins collectifs en tant qu'attractivité de cet exercice. Et puis, ça permet aussi de dégager des gains de productivité. Dans les autres pays, des leviers ont été mobilisés de façon massive. Il y a quand même la question de la répartition du travail entre médecins et d'autres professionnels, qui a été un peu mobilisé en France, mais peut-être de façon beaucoup plus timide que dans d'autres pays, et notamment en direction de ceux qui sont plus nombreux, comme les paramédicaux chez nous, les infirmiers, infirmières, les masseurs-kinés, ou comme la création des assistants médicaux, ou les pharmaciens, donc d'autres métiers ou d'autres professions médicales. Notre levier très mobilisé dans d'autres pays, peut-être qu'on a moins d'opportunités, mais on en a quand même, c'est la question des migrations qui permet de résoudre des problèmes de court terme. Et puis, tout un pan de la politique à moyen-long terme, dans d'autres pays, s'est tourné vers la question de qui rentre dans les études médicales, selon la façon dont se déroulent ces études médicales, qui va s'installer où. Et là, il y a un vaste champ de réflexion, d'apport de connaissances pour construire des dispositifs innovants qui permettraient derrière de mieux sélectionner et de créer les conditions de réalisation de choix qui nous sont plus favorables en termes de proximité de l'offre à la demande.
Et du reste, le gouvernement a publié le 30 avril dernier au journal officiel la liste des médicaments et soins qu'ont pouvoir prescrire les infirmières en pratique avancée sans intervention du médecin. C'est déjà un signe que les choses avancent aussi dans ce sens-là. Thomas Barnet, à la fois sur cette question des autres professionnels de santé qui peuvent prendre le relais, mais aussi le recours à ces médecins étrangers qu'évoquait à l'instant Julien Mousquès.
Oui, je voulais d'abord compléter le volet réforme des études de médecine, qui est évidemment un des leviers non financiers sur lequel on pourrait jouer. Alors, ça nécessite évidemment un investissement, puisqu'il faudrait investir dans les facultés pour augmenter les capacités d'accueil, qu'il faudrait accroître, enfin, on a commencé à le faire, mais faire en sorte que la formation soit peut-être moins hospitalo-centrée, plus pluridisciplinaire, avec des stages de manière plus systématique dans les zones sous-denses. Et puis oui, on le disait tout à l'heure, créer de nouvelles facs de médecine également, puisque c'est un critère qui est très très fort. Les autres leviers ont été soulignés par Julien Mousquès, le soutien à l'installation et l'amélioration des conditions de travail, le renforcement de la coordination entre professionnels, qui semble emporter l'adhésion des médecins, c'est-à-dire que
ils se réjouissent plutôt.
Communautés professionnelles territoriales de santé, il y avait 7% des médecins libéraux en 2019 qui en faisaient partie, on en a 20% maintenant, donc en très peu de temps, on voit qu'il y a une adhésion, et c'est vraiment, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le lien entre l'hôpital dans sa structure ancienne, et la ville, c'est-à-dire des centres de santé qui soient à échelle humaine, localisés là où les besoins sont les plus nombreux, et notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles semblent être aussi un modèle intéressant à promouvoir qui pourrait permettre d'avoir des gains de temps médical et une meilleure accessibilité.
Vous avez parlé également, enfin Julien Mousquès a parlé également du rôle des pharmaciens et des pharmaciennes, et il est temps d'aborder les conséquences, et là encore en raisonnant en économiste que vous êtes tous deux, les conséquences aussi de cette désertification de certains territoires. C'est ce qu'explique Sylvie Lemarchand, pharmacienne à Briouze, toujours sur France Culture en 2021.
Il y a aussi l'aspect économique, il faut aussi comprendre que les officines, elles fonctionnent uniquement avec les médecins, et que à plus ou moins court terme ou long terme, les pharmacies vont disparaître dans les villages. Et que le maillage qui est très excellent parce que, contrairement aux médecins, on ne peut pas s'installer où on veut, donc il y a un excellent maillage en France. On ne sait pas ce qui va devenir non plus, parce que automatiquement, une officine, si elle n'est pas viable, elle va fermer. Et puis d'un autre côté, une toute petite officine ne pourra pas non plus offrir tous les services, des journées de vaccination qu'on va organiser. faut être conscient qu'il faut quand même être assez nombreux derrière pour pouvoir gérer, parce que l'officine, il faut qu'elle tourne à côté. Il y a aussi des patients qui vont venir chercher des médicaments, donc il faut gérer plusieurs choses en même temps sur la même journée. On n'a pas 10 mains. Donc c'est... Et c'est important que les officines restent en milieu rural, parce que il y a des patients qui peuvent pas se déplacer. Enfin, quelque part, on fait partie un peu des emblèmes d'un village, en fait. Hein, c'est important.
Julien Mousquet, c'est un réel risque de voir d'autres professions libérales péricliter faute de médecins, sachant que c'est le médecin qui, de fait, prescrit et qui est la clé de voûte de ce système.
Oui, bien évidemment, il y a des corrélation extrêmement forte dans la localisation d'activités par niveau de soins, hein, sur l'ensemble des professions et des services, par exemple de soins de proximité, mais aussi entre différents niveaux de soins, notamment pour tout ce qui est évidemment prescription, mais aussi diagnostic et biologie et autres besoins de spécialité en première intention, au-delà de la médecine générale. Mais plus largement, et les collègues géographes avec lesquels on travaille vont aussi beaucoup dans cette direction. Il y a aussi la question des autres services en général, et donc les...
Ah, Julien Mousquet nous...
ont une capacité...
Ah, pardon. Julien Mousquet, le temps de rétablir la connexion, je voulais justement passer un dernier témoignage. C'est celui d'un médecin, nous n'en avons pas entendu depuis, ou presque depuis le début de cette émission. C'est Agnès Gianotti, médecin généraliste et présidente de MG France, qui était au micro de France Inter le 23 avril dernier, qui s'exprimait justement sur la proposition de loi qui va être examinée demain.
Moi, je suis censée être dans une zone qui est dans les 11% de territoire les mieux dotés. C'est de la rigolade. Si on empêche les installations sur mon territoire, ça va se casser la figure. J'arrive le matin, j'ai 20 personnes devant ma porte. Donc, c'est une mesure qui va être pire que le mal. C'est ça, notre problème. Si elle apportait une solution, mais on serait de tout cœur avec. On en a besoin de ça. Et c'est quelque chose qui vraiment nous préoccupe. Donc non, pas de leçon de morale. On est tous là pour les patients. On fait au mieux. Tous les jours, on attend les jeunes et les jeunes, faut les écouter. Parce que cette mesure, ils sont vent debout contre. S'ils vont faire autre chose, s'ils vont tous faire de la médecine esthétique, s'ils vont faire de la médecine du sport, vous allez faire quoi, monsieur Garot? Obliger qui à faire quoi?
Voilà, monsieur Garot, c'est le député PS Guillaume Barrault qui donc est à l'initiative de la proposition de loi dont le premier article a déjà été adopté, qui prévoit une régulation sous la forme d'un conditionnement d'une arrivée conditionnée à un départ dans les territoires jugés suffisamment dotés. Thomas Barnet, est-ce que ce découpage en zone est-il pertinent ou est-ce que, comme Agnès Gianotti le disait à l'instant, ça reste un découpage relativement mal pensé?
La question de la définition des zones surdenses ou sous-denses est complexe, parce que on a maintenant un indicateur d'APL, d'accessibilité potentielle localisée, qui nous permet de tenir compte des besoins de la population. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit uniquement à partir de la densité médicale, donc du nombre de médecins pour 1000 habitants, naturellement, on ne prend pas en compte la composition de ces 1000 personnes. Vous pouvez être dans un département où la population âgée est plus importante, les besoins relatifs à ces 1000 personnes vont être évidemment différents d'un département à un autre, et puis il est possible d'aller se faire soigner dans la ville, dans la commune à côté, qui peut être dans un autre département. Donc ce nouvel indicateur est assez intéressant parce qu'il va permettre de regarder les besoins de soins tels qu'ils sont exprimés dans la consommation de soins effectifs, et du coup d'avoir un maillage qui va nous dire plutôt qu'on a 10% de la population qui serait en zone sous-dense. Mais c'est évidemment extrêmement discuté. Et on met souvent en avant l'idée qu'on n'a pas de zone, certains mettent en avant l'idée qu'on n'a pas de zone surdense. Quand on regarde tout de même les différentiels d'APL, on voit quand même des écarts qui sont extrêmement importants. Donc la proposition du député Garot, la proposition transpartisane, elle me semble intéressante parce que... c'est indiqué, hein, elle veut flécher, donc on voit bien que c'est un sujet qui est évidemment extrêmement sensible, flécher l'installation des médecins vers les zones où l'offre de soins est insuffisante. Et donc faire une restriction, mais sur 10 à 15% du territoire peut-être. Donc c'est sûr, et le conditionner à un renouvellement, donc c'est pas une impossibilité de s'installer, c'est le conditionner à un départ en retraite pour assurer un niveau de densité, d'offre médicale par rapport aux besoins similaires.
Et on voit effectivement que le sujet est délicat, puisque je rappelle que François Bayrou a mis sur la table une mission de solidarité obligatoire. Alors ce n'est pas encore tout à fait clair de savoir ce qui va être imposé ou où réside l'incitation. Mais nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler une prochaine fois sur France Culture. Un grand merci à tous les deux, Thomas Barnet et Julien Mousquès, d'avoir participé à cette émission.